Et si on parlait de coaching ? Le coach Jeannot Chaim apporte son expertise et Binyamin Benhamou son regard concret sur les questionnements de notre quotidien.
Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices Torah Box Radio depuis Jérusalem. Bienvenue à notre émission Et si on parlait coaching ? Avec Jeannot Chaim et moi-même Binyamin Benhamou, nous espérons que vous vous portez bien.
Binyamin, bonjour à toi. Je crois qu'on n'a plus besoin de se présenter, non ? Ou il faut se présenter d'un peu ?
J'espère pas, j'espère qu'on a assez d'auditeurs hebdomadaires pour éviter de se présenter. Dans tous les cas, tu es coach notamment, mais également
Et je suis aussi Jeannot Chaim, amoureux des hommes et de la vie et de Dieu. Dis-moi, et toi tu es Maître Binyamin et également
responsable de Torah Box.
Voilà, ça fait bien.
À mes heures libres.
Ça fait bien. Alors, notre
émission. On va se retrouver chaque semaine pour parler d'un thème. Et j'aimerais, cette semaine, que tu nous dises de quoi on va discuter.
D'accord. Tu dis quand même à nos auditeurs que si jamais ils ont envie de parler d'un thème particulier.
Bien sûr, s'ils veulent, ils peuvent envoyer, comme d'habitude, un email à radio@torah-box.com pour nous proposer des thèmes qu'on essaiera d'aborder tous les dimanches.
Voilà, alors le thème d'aujourd'hui, c'est comment aider les nôtres avec les intelligences qu'on va recevoir pendant les émissions. C'est-à-dire que des fois on écoute des trucs, et ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Aujourd'hui je me suis dit, je vais construire un petit kit, une petite trousse à outils qui va permettre aux gens peut-être de fixer un peu les intelligences, les outils, les conseils qu'on va leur donner au fur et à mesure au cours des émissions. Et comment aider les autres, j'ai appelé ça un cadre d'accompagnement, une petite boîte d'accompagnement qu'on va construire aujourd'hui, où je vais expliquer un petit peu les principes d'un accompagnement, si tu veux bien.
J'ai pas du tout compris.
En général, t'écoutes une mission, je te remercie d'abord. Chaque fois que tu me poses une question d'une minute, je t'apprécie. Et je comprends pourquoi je fais
là,
une mission.
Là, c'est une affirmation.
En général, quand t'écoutes un conseil ou un truc, d'après moi, ça rentre dans l'oreille et ça sort de l'oreille.
Donc, comment faire pour...
Pour fixer les outils, les intelligences, pour pouvoir aider ton gosse,
ah, c'est vrai,
pour
ça.
Pouvoir aider
la
un Gmara, collègue.
La Gemara dit elle-même que...
Vas-y.
Que les trois quarts de nous-mêmes, lorsqu'on va à un cours de Torah, ça part.
Ça s'oublie
dans les heures qui suivent.
Alors moi, je suis venu pour construire une boîte dans laquelle on va construire un cadre pour aider les autres. Voilà, on entend des trucs, ça a l'air d'être intéressant, ça a l'air d'être fin, ça a l'air de marcher. Comment faire pour garder ce cadre quand on vient aider quelqu'un ?
Donc ça a l'air d'être utile, comment faire pour le mettre en application concrètement ?
Comment faire pour être, on va dire, opérationnel ? Un soldat, il est opérationnel quand il va... C'est pas rentré d'une oreille, c'est pas sorti de l'autre. Il se met dans un état d'esprit avec une boîte à outils qui lui permet d'agir. Voilà notre sujet. On doit, je crois, s'arrêter pour la publicité. On s'arrête là.
On se retrouve tout de suite pour parler coaching avec Binyamin Benhamou et le coach Jeannot Chaim.
Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sotte Bédivré Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan ? C'est l'ichement, Mizvota, de garder les Mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. questions de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Questions au Rav, les Rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Et si on parlait de coaching ? Le coach Jeannot Chaim apporte son expertise et Binyamin Benamou son regard concret sur les questionnements de notre quotidien.
Rebonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission. Et si on parlait coaching, l'émission au cours de laquelle nous allons traiter de l'idée de savoir utiliser une information à bon escient, la fixer en nous et ne pas faire en sorte qu'elle s'échappe quelques heures après l'avoir appris. C'est parti, on est avec Jeannot Chaim.
Voilà, alors ici on parle, merci Binyamin. Ici, on parle particulièrement de coaching, c'est-à-dire, la dernière fois, par exemple, pour ceux qui nous ont écoutés, on a fait la différence entre, on va dire, des compliments et des encouragements. C'est vraiment, tu te souviens un petit peu ? Encourager, c'est vraiment aider l'autre à progresser, et c'est vraiment intelligent. Mais comment je fais pour prendre une idée comme celle-là, la mettre en application quand je suis face à mon enfant ? Je vois qu'il traîne un petit peu, il traîne les pieds, ou j'aimerais aider un collègue. Comment construire un cadre qui me permette d'être efficace et de mettre en place, on va dire, une action intelligente de coaching. Tu comprends ?
Je comprends très bien. C'est vrai que les trois quarts des gens aujourd'hui, le mot résolution est synonyme aussi de quelques jours ou quelques semaines. Ça veut dire on prend des résolutions pour pas longtemps.
Sympa.
Et certainement parce qu'on a du mal à trouver un mode opératoire pour les acquérir complètement, quoi.
Sympa, Benjamin. J'aimerais que tu décrives, en général, la situation de Monsieur Tout-le-Monde. Quand chez moi, Monsieur Tout-le-Monde, c'est déjà énorme. Parce que Monsieur Pas-Tout-le-Monde, c'est le gars qui n'est pas présent. De toute manière, il est occupé. Ou bien, il a les nerfs. Il est pris par ses émotions. Ça, c'est Monsieur Tout-le-Monde, mais mauvaise version. Monsieur Tout-le-Monde, c'est le gars qui vient, qui dit « Je vois que j'ai un gamin que je dois accompagner, ma femme, elle a besoin un petit peu de présence, mon collègue, il aurait besoin d'un encouragement. » Comment il construit son approche, Monsieur Tout-le-Monde ? A priori, où il va chercher les ressources ? Comment il construit cette préparation ? En général, comment on fait, Binyamin ?
D'après toi. On va à l'improvisation.
Bravo.
On fait ce qu'on peut, on ne calcule pas le temps que va prendre chaque chose et finalement on se retrouve en retard dans l'un ou l'une des situations.
Bravo. En général, on y va à la grâce de Dieu et le Dieu, grâce à Dieu, il nous accompagne. On met le maximum d'intelligence, de générosité qu'on peut mettre, mais ça flotte. Alors la question, un coach, c'est quelqu'un qui améliore les process, qui non seulement il s'occupe d'intelligence, mais il améliore les process pour produire du changement. Donc, quel est le process ? Où est le process ? Alors, je vais te raconter une histoire que mon père nous racontait souvent. Mon père était un officier de police et il avait fait la guerre. Il aimait les histoires de héros. Et petit, on entendait cette histoire sur un officier supérieur de renseignement de l'armée russe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été implanté dans un quartier général des Allemands pour fournir des informations hautement importantes. Le problème, c'est qu'il vivait dans des situations de menace et de stress dingue. Et notre père nous disait toujours, et c'était sympa parce que c'était sa manière à lui de nous préparer à faire face, à avoir des ressources. Il disait, mais comment vous pensez que chaque jour, il pouvait faire face et qu'est-ce qu'il avait comme moyen pour chaque jour être en condition de pas se laisser trahir, d'être là pour remplir la mission qui s'était donnée. En quelque sorte, je viens aider mon fils, je me suis donné la mission d'aider mon fils, je viens aider un collègue ou ma femme, je me suis donné la mission. Qu'est-ce qu'il faisait ? Alors mon père disait que, bon, avec ses mots à lui, il avait dans un chiffon un habit, qui était un habit d'officier de l'armée russe. Et le matin, dès qu'il se levait, il ne mettait pas directement son costume, on va dire, d'allemand. Il mettait son vrai costume. Son costume, on va dire, d'officier de l'armée russe. Il se regardait au miroir. Il se disait, je suis en mission. Après, il défaisait tout ça. Il remettait son costume. Il cachait son costume. Et il dit que c'est avec ça qu'il a tenu pendant toute la guerre. À gaffe, j'ai pensé que peut-être que quand nous, les hommes, on met le talit et le filin, on est des officiers de l'armée de Dieu, ou quand la femme, elle met sa perruque, elle se met en mission. On est en mission.
Exactement.
Oui, tu arrives à comprendre cette idée?
J'ai un rave qui m'a dit que quand il met le chapeau, c'est surtout pour créer en fait une différence entre quand il prie pas et quand il prie. Quand je prie et je mets mon chapeau, je me soumets un petit peu plus. Et comme ça, j'oublie pas que je suis face à Hachem.
C'est génial. Cette idée-là. Cette idée-là, si tu veux, au début, quand on débute les études de coaching, les professeurs nous disent, on va vous apprendre une des idées plus importantes de l'accompagnement. Quelle est l'idée la plus importante de l'accompagnement? C'est que vous devez laisser, quand vous venez faire un accompagnement, c'est valable aussi pour une mitzvah, c'est valable
d'un coaching, accompagnement.
D'un coaching, et par exemple ici, je me suis proposé d'aider mon fils, d'aider ma femme, d'aider un pro. C'est une shlichut de mitzvah, c'est un accompagnement. Bien sûr que ce n'est pas un accompagnement professionnel dans lequel vraiment on va pouvoir comprendre et aider la personne. Mais on aide, on est dans la mitzvah d'aider, donc c'est un accompagnement. C'est une shlichut. Comment se mettre dans cet état d'esprit? Alors, la première des recommandations de notre professeur, c'était de nous apprendre de laisser notre existence au vestiaire. Fallait se débarrasser de son existence au vestiaire. Presque, pour pouvoir intervenir, ça veut dire un vrai professionnel de l'accompagnement, il laisse son existence au vestiaire. Quand il rentre dans la pièce pour pouvoir, on va dire, faire ce qu'il a à faire, il n'amène que la mission qu'il a prise, c'est-à-dire ici d'accompagner. Cette idée, je la trouve valable dans la vie de tous les jours pour aider quelqu'un. C'est-à-dire mentalement, de se débarrasser, on va dire, quelque part, on va dire, de ton existence et sentir qu'ici, il se passe autre chose. C'est-à-dire, ça serait gommer un peu
pourquoi,
tout.
Pourquoi?
Hein?
C'est de l'empathie, c'est quoi?
Ah non, c'est plus que de l'empathie. Comme si le cerveau, il est tout le temps occupé à traiter mille choses à la fois. Mm-hmm. Comme c'est marqué « Osek Bamizva, Patur Mina Mizvot ». Pourquoi? Parce que si ton cerveau, il est occupé à faire une chose, les Mizvot, on va dire, c'est pas… Il faut les faire bien.
Ouais.
Tu comprends un peu?
Donc là, je comprends pas. Là, je suis en train de coacher quelqu'un.
Non, tu es en train d'aider ton fils.
Je suis en train d'aider quelqu'un.
Voilà. Tu dois mentalement penser que tu mets ton chapeau, tu mets ton casque. En mettant ton chapeau… Ce chapeau.
Donc, je vais sérieusement t'aider.
Voilà.
Je mets mon habit d'officier, voilà. Je mets mon chapeau de rave, je mets mon titre de papa en marche.
Papa en marche, bravo. Elle est jolie cette image.
Et je me dis, là, je suis en train de t'aider à 100%.
Je suis en train de t'aider. Et cette chose-là, les chercheurs, ils ont trouvé un nom maintenant. Ils appellent ça en anglais mindset. C'est un état d'esprit, c'est un espèce de casque, un espèce de moule. Que l'homme, il se met sur la tête et que c'est pas juste une intelligence, il se met en condition. Tu vois, par exemple, dans la Mishnah, quand on te dit « da lifne mi atomer », c'est pas, t'as pas dit « réfléchir ».
En français ?
Ah, pardon.
Sache.
Sache. Alors nous, on traduit « sache devant qui tu te tiens ». Bon, là, vas-y, va faire un cours de théologie pour savoir devant qui tu te tiens. Non, sache, prends du temps pour te mettre en situation que tu es vraiment en présence.
De Dieu.
Quand tu viens en présence de quelqu'un que tu vas aider, il faut que tu saches, c'est-à-dire il faut que tu crées cet état d'esprit et que tu te débarrasses de tout ce qui, on va dire, pourrait gêner un petit peu. C'est l'idée de « je suis un papa en action ». Tu comprends un peu cette idée?
Très sympa. Voilà. Et comment est-ce qu'on se met en action à part…
Très bien. Tu as vu que tu es rapide, tu es
béni. On est là pour avancer, on est là pour être concret.
Tu es béni du ciel, tu es rapide. Le schlaf d'après, c'est comment on se met en action, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a d'action. Alors, je dis la première des choses, c'est créer un état de qu'on va pouvoir faire quelque chose. Il va se passer quelque chose. C'est-à-dire, la pire des choses, c'est dès qu'on est repris par la fatalité. Allez, ça y est, il a redit ce qu'il a dit. Moi, je vais lui redire ce que je vais dire. De toute manière, il ne va rien se passer. La fatalité, c'est la pire des choses. Tu comprends pas ce que
je dis? Je ne comprends pas du tout ma question et ta réponse.
Vas-y.
Comment est-ce que je me mets dans cet état de... comment est-ce que je prends mon rôle au sérieux d'accompagnateur, de coach?
J'essaie de répondre en te disant, à partir du moment où tu définis maintenant, si tu veux...
C'est dans la tête, c'est un déclic.
C'est un déclic, voilà, c'est un switch.
C'est une cavana.
C'est une cavana, c'est comme un interrupteur. Tu as changé d'interrupteur maintenant.
Bon, c'est déjà une étape.
T'es venu pour aider.
C'est déjà une étape.
T'es venu pour aider, alors aide.
J'imagine souvent... que c'est une petite réflexion. Qui je suis? Pourquoi je peux l'aider? Qui est-il? C'est tout.
Tu es venu pour aider. Souvent, nos épouses nous disent, mais tu es là, tu es vraiment là?
C'est ça.
Tu es là ou tu n'es pas là? Je suis venu pour aider. Mais une fois que j'ai fait ça, mais il faut donner une viabilité à ce que je suis en train de faire. Ça veut dire, quelle est la viabilité? Pour qu'on ne retombe pas dans l'habitude, dans l'affrontement, dans les émotions, quelle est la viabilité? Alors nous, les coachs, on parle beaucoup, et je veux dédramatiser un petit peu cette idée-là, on parle beaucoup de la positivité. Tu sais ce que c'est la positivité? Tu as une définition de la positivité? Ta définition, pas la définition des livres, ta définition. Ça serait quoi la positivité? Avoir une vision positive d'une situation, c'est quoi pour toi? C'est un mot creux, un mot bidon, c'est un mot qui... Il est tellement usé ce mot qu'il fait peur. C'est quoi pour toi?
Je pense que tu l'as défini en disant ce que c'était. J'imagine que dans les mots, dans les attitudes, il faut tirer vers le haut, quoi.
Tirer vers le haut. Sympa, qu'est-ce que t'appelles tirer vers le haut? Décris un petit peu ce tirer vers le haut.
Au lieu de dire on a un problème, on va dire on est en train de trouver une solution. Je sais pas, moi, c'est des mots et des attitudes qui nous font, qui vont faire émerger en nous des possibilités d'y arriver, d'avancer, et pas d'un sentiment de reculer, d'échec.
D'accord, c'est un espoir, hein, un peu, j'entends l'espoir.
J'ai l'impression.
C'est un espoir. Mais des fois, tu sais, moi j'accompagne beaucoup de parents et d'adolescents aussi, ou des couples en reconstruction. Des fois, quand c'est trop marqué, ils n'y croient plus. Ça veut dire, les partenaires n'y croient plus. Ça veut dire, même si on vient avec toute notre bonne volonté, des fois, on n'y croit plus. Qu'est-ce qui peut faire que... Où se trouve le fondamental? Pourquoi on peut croire? Pourquoi il y a des gens qui poussent, ils arrivent à pousser plus loin? Au nom de quoi ils poussent plus loin? Quelle est la valeur qui pourrait nous donner la force d'intervenir? Tu comprends un peu cette idée? Alors, moi, je vais te donner ma définition de la positivité en te racontant une anecdote. Un jour, je coachais un adolescent qui était en rupture avec ses parents, des parents adorables, gentils, on va dire orthodoxes, qui avaient éduqué le mieux qu'ils pouvaient. Et comme tu le sais, on ne nous apprend pas à être parents et on fait ce qu'on peut. Et la fille, le garçon, pour une raison X, c'était complètement en rupture. Et quand on a analysé un petit peu où ça se trouvait, on a trouvé rapidement, on va dire, des raisons qui auraient pu, on va dire, lui donner envie de remettre le pied. Alors le garçon m'a regardé, il m'a dit, mais de toute façon, j'y crois pas. Je dis, pourquoi tu crois pas? Pourquoi tu crois pas? Il dit, parce que... J'aimerais que tu me dises, et ça c'est une question sympa, pourquoi il faut croire? Donne-moi une bonne raison que ce que je vais faire, ça va arranger quelque chose. Pourquoi il faut croire? Quelle est la raison qui nous dit qu'il faut croire? Pourquoi il faut croire? Tu entends la question? Tu l'as déjà entendue?
Non, même pas.
Jamais?
Non.
Jamais quelqu'un qui te poserait la question en te disant, mais pourquoi tu voudrais que ça marche?
Pourquoi il faudrait croire?
Ouais, pourquoi tu voudrais que ça marche? Pourquoi les conseils que tu me donnes, ils marcheraient? Pourquoi tu veux que ça change? Où se trouve le modèle qui me permet de dire que ça peut changer?
Donc, il est dans le désespoir.
C'est une forme de désespoir, oui. C'est clairement une forme de désespoir, de fatalité, de désespoir. Même le pessimiste, des fois, il est là-bas. Pourquoi tu voudrais que ça marche? Pourquoi tu voudrais que cette fois-ci, ça marche? Où est le modèle? Alors, il m'est venu un modèle très sympa. Je te le donne, tu me dis. C'était spontané, hein. C'est des découvertes. Benjamin, écoute, il y a un prix, tu as entendu parler du prix Nobel, mais il y a un prix qui s'appelle le prix Ig Nobel. Tu peux chercher sur Wikipédia, il existe. C'est un prix qui est donné par les plus hautes autorités scientifiques du monde. Parmi eux, ils siègent dans le comité des lauréats du prix Nobel. Ça veut dire qu'il est donné, je crois, dans une grande université en Amérique, à Harvard ou je ne sais pas où. Mais il s'appelle le prix Ignoble, le prix Nobel. Pourquoi il s'appelle le prix Ignoble? Là-bas, ils viennent célébrer où les plus grandes catastrophes de la science, ou bien les découvertes les plus cocasses, les plus inattendues, mais qui font progresser le monde. J'ai envie de proposer ce modèle tellement il est simple et cocasse, et de voir si je peux recevoir le prix Ignoble. En gros, ça m'est venu comme ça, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. On est construit sur le modèle de la vie, tu es d'accord? Ça veut dire, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des hommes. A priori, si tu touches pas la vie c'est le chaos, ça veut dire, a priori, si tu touches pas l'être vivant, la fleur, la rivière, le poisson, le cheval, a priori, ça marche ou ça marche pas?
Tout se passe bien, a priori.
A priori, tout se passe bien. C'est le modèle de la vie. Pourquoi on doit être sûr que si je vais mener une action intelligente et généreuse, elle va marcher? Parce que c'est le modèle de la vie. On a lu dans la paracha, Vatem advekim bashem elokechem, chayim kulchem. Pourquoi Hachem nous dit chayim kulchem? C'est le modèle de la vie, la Torah, c'est le modèle de la vie. Tu entends un peu cette idée?
C'est beau.
Non, mais dis-moi pourquoi ça peut aider? Pourquoi ça peut aider?
Ça peut aider parce qu'il suffit juste de regarder, d'ouvrir ses yeux naturellement, sans préjugés, et voir qu'il y a plus de choses bonnes que de choses mauvaises.
Ok.
D'accord. Il y a plus d'automobilistes qui arrivent à destination que d'automobilistes qui font un accident. Donc la Torah, elle permet de prendre la voiture. Donc si je me concentre sur les accidents, si je me concentre sur des choses négatives, mais qui sont en fait, ça veut dire si tu calcules bien, qui arrive beaucoup moins que des choses bonnes, bon, finalement, comme tu dis, le cours de la vie, c'est d'arriver, c'est de fonctionner,
Et de réussir. Si en plus, je rajoute deux choses très simples qu'on cultive par l'intelligence, aussi par le coaching, par la sagesse, qui sont de mettre un peu plus de réflexion et un peu plus de générosité. Plus je serai raisonnable, plus je serai généreux. Il n'y a pas de raison que la vie, elle ne marche pas. C'est ça la positivité pour moi. Quand on parle de psychologie positive, ce n'est pas des grands mots dans le ciel. C'est croire que les modèles de la vie vont fonctionner.
C'est beau.
Je crois que le moment, il est venu de mettre une pause, Benjamin.
C'est la pause.
Voilà, c'est la pause.
השם יתברך, והרני עבד, הרני עבד, עבד להשם, להשם יתברך.
Rebonjour à tous et à toutes et re-bienvenue dans l'émission « Et si on parlait coaching ?» L'émission au cours de laquelle on traite aujourd'hui de comment arriver à fixer dans nos vies des schémas intelligents qu'on aurait appris. Comment arriver à les mettre en place dans notre propre vie. C'est avec Jeannot Chaim qu'on traite de tout ça. Jeannot, où est-ce qu'on en est?
On traite ça avec le maître Binyamin aussi.
Également.
Également. Ne mettons pas. Alors, si tu veux, pour l'instant, on a parlé de créer une boîte d'intervention, un petit peu comme un ouvrier qui vient faire quelque chose pour aider. Et dans cette boîte, on a mis pour l'instant deux choses. On a mis le fait de construire un état d'esprit dans lequel on est présent.
Quand on veut aider quelqu'un, qu'on mette un petit peu notre rôle au sérieux, notre rôle clairement, définir notre rôle clairement. Je suis là pour aider un tel.
Je suis là pour ça. Mais comme tu as dit, c'est un interrupteur. C'est un switch. On le décide à l'intérieur de la tête
et
on ne le bouge pas.
Ça, c'est la première clé.
Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de croire à ce qu'on va faire. De ne pas venir parler, discuter, faire des... avec plein de bonne volonté. Non, c'est de croire puissamment, de croire que ce qu'on va faire, il y a de la vie, on va déposer de la vie.
Jusque là, naturellement, les choses fonctionnent.
Voilà. Alors maintenant, je voudrais ouvrir avec toi encore deux petites clés et peut-être qu'après, on ramassera notre boîte à outils. La troisième clé que je veux mettre dans la boîte, c'est celle que j'appelle l'empathie. D'accord ? Là encore, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose... on va dire qu'il est un petit peu usé, d'accord ? Qu'est-ce que tu comprends, toi, quand je dis, voilà, il faut venir ici avec de l'empathie, qu'est-ce que tu comprends ?
L'empathie, c'est mettre les préjugés peut-être de côté, quoique, c'est se mettre à la place de l'autre pour essayer de mieux le comprendre et mieux l'aider.
Sympa. Il y a des études qui ont été menées sur les gens, les soignants qui traitaient les maladies incurables. Ils se sont rendus compte que par vocation, la plupart des gens qui étaient dans ces services, c'était des gens qui débordaient d'empathie. Et au bout de quelques temps, rapidement, les soignants, les accompagnants, on va dire, de ces maladies incurables, ils déclaraient des pathologies de burn-out, de dépression grave et de... Et presque de désespoir. Ils se sont posé la question, comment des gens avec des ressources énormes, on va dire d'empathie et d'émotions positives, c'est la maman qui se tue de soucis pour son garçon, sa fille qui sort le soir, le père qui se tue de soucis parce que son enfant il étudie pas la Gemara et il joue sur sa PlayStation, le mari ou la femme qui viennent vers l'autre avec de l'amour et de l'empathie. Et pourtant, on voit que des fois, ça ne marche pas. Et le fait que... Et ça s'use. Alors, ils se sont posé la question, pourquoi ? Pourquoi ça ne marchait pas ? Pourquoi ça s'usait ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Où était le problème de l'empathie ? Ils ont fait des études. Ils se sont rendus compte qu'une des précautions qu'il faut prendre dans l'empathie, C'est justement ça. Faire attention de ne pas se mettre à la place de l'autre, de ne pas entrer dans les chaussures de l'autre. Que la projection, on va dire, d'empathie, qui fait « je te comprends, je ressens ce que tu comprends », il n'y a rien de plus insupportable pour quelqu'un qui souffre que tu viennes le comprendre trop facilement et trop rapidement.
Ah, ça veut dire qu'il ne voudrait pas être trop compris, il voudrait plutôt être écouté,
bravo,
entendu,
bravo.
Plein.
Peut-être.
Vous voudrez être plein, peut-être.
Et encore avec mesure. Ils ont compris que le piège de l'empathie, c'était l'identification bon marché. Ça veut dire, tu es là trop collé, trop présent, comme si tout était trop...
L'empathie, c'est pas de dire à l'autre, je comprends tes problèmes ?
Non.
Non.
J'arrive à comprendre tes problèmes. Peut-être, je vais essayer de comprendre tes problèmes. Une mesure de recul, de retrait. J'ai toute l'envie de comprendre tes problèmes. Tu vas m'aider à comprendre tes problèmes. Là où tu es, est-ce que tu m'autorises à comprendre tes problèmes ? Ça veut dire, dans l'empathie, L'empathie, elle doit être là, parce que sans empathie, on va dire, on va faire un travail, on va dire, un petit peu sec. Mais il faut faire attention à l'empathie. Ni trop, ni pas assez. Mmh. Et souvent, le piège de l'affect, c'est la trop grande proximité avec celui qui a le problème ou qui souffre. Mmh. Tu comprends un peu cette idée ?
Je comprends un peu l'idée. C'est fin ?
Pourquoi c'est fin ? Essaye de me...
C'est fin. Comprendre l'autre, c'est penser, se mettre un peu à sa place pour arriver à trouver les mots justes. Finalement, tu dis, c'est pas se mettre à sa place, mais c'est se positionner en tant que personne prête à l'aider.
Voilà.
Qu'elle comprenne que tu es prêt à l'aider.
Voilà.
Prêt aussi peut-être à le plaindre, à l'écouter. Finalement, c'est une oreille très attentive, c'est quoi ? C'est quoi la nuance ?
Non, la question que tu demandes...
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?
Non, la nuance, elle est fine et tu as raison de dire que c'est fin. Je te raconte une histoire, j'essaie de me dégager de ta question tellement. À Chamichemort, un jour, j'étais assez jeune. J'étais rebelle. J'étais un jour à une avéloute à Bnebrak d'un de mes amis, un de mes élèves, qui avait perdu son petit frère d'un accident de voiture en France. Il ne pouvait pas rentrer en France, donc il a fait la veloute à Bnebrak. Et comme le père de ce garçon était un rave connu, sont venus le visiter au garçon, qui devait avoir 20 ans, 22 ans, mm-hmm. tous les Talmidei Chachamim, qui connaissaient le père. Et moi, j'arrivais avec un peu de retard, ils étaient tous assis autour de lui. Je rentre dans la pièce et je regarde un bonhomme dans un coin avec, je te jure, Binyamin, il devait y avoir 12 personnes autour de lui. Chapeau, costume, des gens que je connaissais et que j'adore. Tous assis, immobiles, silencieux. Je me suis dit sûrement qu'ils ont dû couper le son ou... Il s'est passé quelque chose, quoi. Je veux dire, sur moi, il s'est passé quelque chose. Alors, je me suis mis en recul, je ne voulais pas déranger. Peut-être qu'ils étaient en train de faire une prière, moi. Va savoir, tu sais, les rabbins, ils ont toujours leur truc. J'attends une minute, cinq minutes, dix minutes, personne ne parlait. Pourquoi personne ne parlait, Binyamin ? Qu'est-ce qui est marqué dans l'Halakha sur des gens qui vont visiter un Avel ? Tu connais cette Halakha ?
Ok.
Pourquoi les gens se taisaient ?
Pour laisser l'endeuillé avec lui-même.
Ok, il y a une halakha qui dit, dans le Shulchan Aruch, que les mevakrim, les menachamim, ceux qui viennent consoler l'endeuillé, ils ne doivent pas ouvrir la bouche tout le temps le havel, celui qui est endeuillé, il n'a pas ouvert la bouche.
De parler après l'endeuillé.
Ça veut dire d'attendre qu'il parle. Mais attention, le petit était complètement prostré, complètement
fermé,
complètement en souffrance. Les gens, ils étaient alignés comme des CRS et ils le regardaient. Et ça, j'ai demandé à la sœur, mais depuis combien de temps c'est comme ça ? Maintenant, ça dure 20 minutes. Personne ne parle vu que tout est gelé. Binyamin, je te demande, qu'est-ce que tu aurais fait en tant qu'humain ? Qu'est-ce que tu aurais fait ? L'empathie. Et toi, tu es proche du petit. Et
donc c'est en fait, comme... tu m'interdis de parler. Ouais. Et lui, il est prostré.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La situation,
On pleure.
On pleure, ouais.
Ça n'aidera pas.
Non, ça n'aidera pas. Qu'est-ce qu'elles faisaient les tantes d'Algérie et de Tunisie ?
Elles pleuraient.
Non, mais quand elles rentrent dans la maison, elles voient le petit prostré et tout le rabbin autour de lui. Qu'est-ce qu'elles font ?
L'embrasse.
Tout simplement. J'ai pris une chaise, je suis allé à côté de lui, je l'ai serré contre moi, je l'ai embrassé.
Très bien, je crois qu'il n'y avait que cette.
Mais avec que ça. Le petit, il a commencé à parler. Il m'a dit : qu'est-ce que tu dis ? On a parlé, alors on a commencé à parler, mais l'empathie justement c'est un truc, c'est sentir l'autre, c'est ça que j'essaie de te dire. Ne pas aller trop vite, trop loin pour le coller, mais ne pas rester trop longtemps, trop loin de lui, mm-hmm. C'est une manière de sentir l'autre, tu comprends un peu ? Dis-le dans tes mots, on va mieux le comprendre, dis-le dans tes mots.
Non, c'est très bien dit.
Ouais, c'est vrai,
c'est très bien dit. Non, c'est vrai.
C'est ça l'empathie. Viens, on fait une petite pause.
J'ai l'impression que l'empathie, c'est surtout dans l'émotion, plus que dans les mots, l'intelligence.
T'as raison. C'est ce qu'ils appellent, tu vois, tu m'aides à... à clarifier, c'est ce qu'ils appellent l'intelligence émotionnelle. C'est une forme d'intelligence émotionnelle. Et on peut se faire confiance là aussi. Et si on ne sait pas, on a des modèles. On a des modèles de générosité. On a des modèles de gens qui savent donner de la force et de la confiance. On les a devant nous. C'est ces modèles qu'il faut utiliser. Pas tellement le verbiage, plus l'intelligence du cœur.
Très bien, on fait une petite pause une et petite on pause. Se retrouve pour les prochaines 15 minutes sur l'émission « Et si on parlait coaching ?»
On se retrouve tout de suite pour parler coaching avec Binyamin Benhamou et le coach Jeannot Chaim.
Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'Halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.
Et si on parlait de coaching?
Rebonjour à tous et à toutes dans notre émission « Et si on parlait coaching ?» Je suis en présence de Jeannot Chaim et nous sommes dans l'émission qui nous permet de savoir comment mettre en application les choses qu'on voudrait mettre en application, qu'on apprend, qu'on entend. Jeannot, la parole est à toi.
Merci Binyamin. Alors voilà, on a dit on construit une petite boîte à outils. Alors dans notre boîte à outils, on a fait rentrer... être vraiment là, être présent, mettre un casque et dire voilà, je suis dans la mission d'aider. Deuxièmement, croire à notre mission, c'est-à-dire mettre de la positivité, c'est-à-dire donner de la vie à ce qu'on va faire. Quatrièmement, une empathie, vraiment faire confiance à notre cœur et bien doser la dose d'amour, ni étouffer l'autre avec je te comprends et ni être trop loin. Quand il s'enferme, vraiment faire confiance au cœur. Non, je voudrais parler, avant de finir l'émission, d'une dernière notion qui est très importante, Binyamin. Et là aussi, je vais raconter une anecdote sur un jeune que j'accompagne. Et des gros soucis, on va dire, il n'arrive pas à aller à Yeshiva, il n'arrive pas à se lever le matin, il n'arrive pas à faire des choses. Le soir, il passe ses soirées dehors. Et si on lui interdit de sortir, ben, il est sur le portable et il se débrouille pour avoir... Enfin, le classique de l'enfant en difficulté. Et j'essaie de construire avec lui, on va dire, des projets qui pourraient le dégager, des choses qui pourraient lui parler. Et en gros, je sens... que l'enfant, il n'est pas loin des parents, il n'est pas loin de la maison, il n'est pas loin de l'ambiance de la maison. Alors je lui dis, mais si je comprends bien, t'es pas si bien que ça dehors. Alors il me regarde, il me dit, oui, c'est vrai, je ne suis pas si bien que ça. Je sors parce que je ne suis pas si bien que ça dedans. Ah, je connais les parents aimants, des parents attentionnés, des parents qui donnent... je lui dis, mais t'es pas si bien que ça dedans. Pourquoi? Alors il me regarde dans l'incapacité de me dire pourquoi. En tant que coach, des fois, j'ai des intuitions, j'ai des pistes, et c'est celle-là que je vais exploiter, bien sûr, en prenant beaucoup de précautions. Je dis au gamin, est-ce que tu voudrais me dire que tu ne te sens pas bienvenu à la maison? Attention, c'est un enfant qui est éduqué, qui est soigné, on fait attention à lui. Il me dit, je ne suis pas bienvenu à la maison. Je veux dire, ça veut dire que quand tu es à table, tu es différent. T'es différent des autres, t'es différent de... Tu sens que... clairement. J'écoute, c'est une chose dont je dois discuter avec les parents. Je convoque les parents et je leur dis... La première des choses qu'un coach dit aux gens, c'est que personne ne peut être à ta place. Ça veut dire, ce que je suis en train de te dire, c'est juste modestement pour essayer de t'aider, mais moi, si j'étais à ta place, je ne sais pas si j'aurais fait aussi bien que toi. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut dire. Et c'est pas de la blague. Ça veut dire vraiment, les parents, ils donnent le maximum. S'ils peuvent s'améliorer, alors on va essayer d'améliorer. Mais vraiment, ils donnent le maximum. Je dis aux gens, d'après moi, j'ai le sentiment que votre enfant, il n'est pas désiré à la maison. La mère me dit que ça veut dire qu'il n'est pas désiré. On l'aime, on l'adore, on passe tout notre temps à lui dire qu'on l'aime et qu'on l'adore. Sinon, pas sur le plan de l'empathie, de l'amour, sur le plan de la fierté. J'ai l'impression que vous n'êtes pas fier. Alors, la mère ne se rend même pas compte qu'elle était dans ses automatismes, la pauvre chérie, tellement elle souffre. Mais si on est fier, on est fier, on est fier. Et là, le père, avec héroïsme, il dit, mais non, on n'est pas fier. Comment tu voudrais que je sois fier d'un garçon qui ne fait pas kriyat shema, qui dort jusqu'à 2h de l'après-midi, qui ne va pas à la yeshiva, qui sort le soir, qui fait... Comment tu veux que j'arrive à être fier? D'abord, je me suis levé. Tu sais, Binyamin, chaque fois qu'il y a quelque chose de grand qui est dit, je me lève. Et je lui ai dit au monsieur que malgré tout, un enfant ne peut pas grandir qu'avec de l'amour. C'est-à-dire, pour grandir, il doit grandir avec de la fierté. La fierté de ses parents. S'il sent tout le temps, pas juste la critique, parce que la critique et le jugement, on nous a prévenu que la critique et le jugement, ce n'est pas bénéfique. Mais s'il sent qu'il n'y a pas un regard de projection sur la réussite, sur sa réussite, d'ailleurs, c'est valable dans l'entreprise aussi, quand on regarde un employé, c'est valable. Si on ne regarde pas l'autre avec la fierté de ce qu'il est et de ce qu'il peut réaliser, si on n'est pas fiers les uns des autres, il n'y a pas de possibilité de trouver une forme d'existence. Tu comprends cette idée? Et dis-la dans tes mots, qu'est-ce que tu comprends?
Je comprends qu'on a un besoin de reconnaissance de la part de ses parents.
Et de la part de son patron.
De la part de son patron.
La part de son allié, de son conjoint. On a besoin de
conjoint, alors de son égal et de son autorité, on va dire, supérieure dans différentes circonstances. On a besoin de sentir qu'on est capable. Ouais. Même si on est apprécié. Apprécié, c'est une chose, c'est gentil. On est apprécié parce que...
C'est l'empathie.
D'accord.
Mais des fois, l'empathie, elle masque une espèce de jugement qu'on a sur la situation. Malgré l'empathie, il y a quand même un jugement. Non, je ne peux pas être fier de toi. Et si tu ne peux pas être fier de moi, je le sens. Et je suis une pierre rapportée. Et j'ai le sentiment d'inutilité. Et donc, je ne me relève
donc,
pas.
Donc, j'ai besoin que vous me donniez confiance, une vraie confiance. En fait, la preuve que vous avez de la fierté pour moi ou de moi, c'est que vous allez me donner confiance, donner, je sais pas moi, un rôle.
Sympa, Binyamin, parce que tu vas vite, tu réfléchis, tu vas... Je suis sûr que tu ferais un très bon coach.
Ouais, je pense aussi.
Non, je rigole pas. Et là, il m'est venu une idée de génie. Mais c'est exactement ce que tu es en train de dire. J'ai dit à ses parents, regardez, si je venais, on va dire, des services sociaux, je vous disais, on a un cas d'un garçon qui est en difficulté, en rupture par rapport à sa famille, et sa famille est orthodoxe, lui il n'arrive pas à tenir, et vraiment c'est très difficile. On voudrait le mettre dans une bonne famille, et qu'on l'accepte tel qu'il est, mais de le voir avec toutes ses potentialités, parce qu'il en a. Et vous êtes prêt à le recevoir. Ça veut dire, quand j'ai dit ça aux parents, les parents ils ont dit, mais c'est vrai, si on prenait le petit pendant 3 mois, 6 mois comme un étranger, mais qu'on le voyait avec tout ce qu'il peut faire, tel qu'il est, et qu'on essaierait de faire progresser ça. Ça a switché et les parents sont repartis au travail. Sympa.
Très beau. Très beau.
Ça veut dire être fier, ça se travaille aussi. Ça veut dire, c'est parce qu'on est trop englouti dans les émotions et la fatalité de la vie qu'on n'arrive pas à prendre du recul. En gros, c'est une grosse leçon de recul, si tu veux. Prendre du recul. S'il fallait tirer une des leçons les plus importantes dans le cadre d'intervention, c'est prendre du recul. Depuis le début, prendre du recul, de telle sorte qu'on ne vienne pas charger des habitudes et des émotions habituelles. Et jusqu'à la fin, prendre du recul, on a vraiment une mission de vie. Et on peut y croire. Et la personne qui est en face de nous, on peut lui donner sa chance. Donc, prendre du recul. Benjamin, je crois que le moment de clore l'émotion. L'émotion, l'émission.
Il faut clore l'émotion. Non, l'émotion, il ne faut jamais la clôturer. Hein?
On reste sur les émotions.
Bon, de quoi on a parlé aujourd'hui?
C'est toi qui fais la synthèse et après, moi je dirais le mot. De quoi on a parlé? Ramasse le cœur de
le maximum de clés.
Non, le cœur de ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui t'a marqué?
Qu'est-ce qui m'a marqué aujourd'hui?
Le plus.
Il m'a marqué la première idée que tu as dit, simple, qu'il faut prendre notre rôle d'accompagnateur, de personne qui va aider au sérieux. Et aujourd'hui, on est tellement déconcentré. On est tellement partout, on veut tout faire à la fois, que forcément, si on ne décide pas d'aider une personne, on ne va pas le faire bien. Et la personne en face, elle va le sentir aussi. Hein, aujourd'hui, nos femmes, elles sentent très vite quand on ne les écoute pas parce qu'on regarde en même temps le téléphone. Donc, prendre notre rôle au sérieux, mettre notre habit spirituel d'accompagnateur, de coach face à la personne, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, rappelle-moi.
La positivité, y croire. Croire à la mission.
Croire à la mission, faire penser à la personne qu'on veut aider que habituellement, les choses vont vers le haut. Coule de source, elle recule pas, d'accord. Quand ça recule, c'est rare.
C'est donc on peut y croire.
C'est rare. Si c'est rare, il faut plutôt croire au positif qu'au négatif. Voilà.
Il y a plus si de choses bien. Et si j'y crois, ça se communique.
Hein?
Si j'y crois, ça se communique.
Ça se communique. Quand je me lève le matin.
Tu crois à l'émission? Tu crois à l'émission?
Bah oui, parce que sinon je serais pas là.
Alors ça se communique.
Ça se communique. Quand je me lève le matin, j'ai combien de membres qui vont bien?
Waouh.
C'est vrai ou pas?
Ah chouette.
Il y en a combien? Il y en a peut-être 500 qui vont bien et un qui me fait un torticolis. Hein? C'est la deuxième chose, la deuxième clé. La troisième clé?
Eh ben, l'empathie.
L'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? Comment être empathique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Éviter de croire qu'il faut absolument être à la place de l'autre.
Voilà. Et d'un autre côté?
Et d'un autre côté, lui apporter tout le soutien affectif quand même.
Bravo.
Ne pas croire que la parole fait tout, peut-être des fois les gestes, l'émotion. Les...
Bravo.
Et quatrième clé.
La fierté.
La fierté. On ne peut pas simplement aimer une personne pour qu'elle éclore.
Voilà.
Mais il faut également lui donner une telle confiance qu'elle serait capable de faire telle ou telle chose.
Bravo. Voilà.
D'accord.
C'est la petite boîte à outils que je voulais construire.
C'est vrai qu'une fois, je me rappelle, j'avais employé quelqu'un. Et bon, je lui ai dit, écoute, je vais te donner des tâches vraiment simples, histoire de te donner du travail. C'est pas que j'ai des rôles pour toi particuliers, etc. Et quand j'ai parlé avec une personne de sa famille, alors, parce que c'est quand même assez, pas dégradant, mais bon, quand le type il sait qu'il vient, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme une pièce rapportée, et qu'il est là juste un peu pour boucher les trous, bon bah ça l'aidait, hein, mais c'était quand même pour boucher les trous, c'est une chose. Mais quand cet état il reste, Il y a un moment où, je me rappelle, quelqu'un de sa famille m'a dit, tu sais, il aimerait bien surtout que tu sois content, en fait, de ce qu'il fait.
Sympa.
Ça veut dire que, bon, il sait que c'est à des travaux comme ça, de commodité, pour essayer de vous aider dans ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Mais il aimerait bien quand même sentir que déjà, ça vous apporte quelque chose. Et peut-être lui donner des meilleures tâches. Parce que sinon, on meurt, en fait. La fleur fan.
Très sympa.
Très bien. En tout cas, j'étais très heureux de passer ce moment avec toi. J'espère que les auditeurs ont profité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et si on parlait coaching.
Merci, Binyamin.
Shalom à tous. לא נשבר, לא נגמר. אתה שציירת חיוך על שפתי ילדים, על תפילות אנשים באורך יש חיים. חושך בתוכי אלוהי תשמע קולי על המר והמתוק מודה אני אתה שגשמת בי חלק חלומות רחוקים שהפכו לחיים נס גדול ים קסמים איך מתנגן בי תמיד אור אינסוף שמזכיר שאנחנו רק שיר ילדים גם כשחושך בתוך